Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Vous écoutez Dans les airs, on est le lundi 13 février, ici Florence, et je suis en compagnie de...
Raja. Bonjour Florence.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va. Cette semaine, il nous manque un membre de l'équipage, Olivia. Oui.
On pense très fort à elle et on espère que tout ira bien pour elle.
Oui, on lui envoie plein d'amour et je sais qu'elle sera... elle nous écoutera. Et de retour la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on vous réserve... Tu sais, on est la veille de la Saint-Valentin quand même. Donc, on vous réserve une émission chargée en amour quand même.
Oui, et en idée de cadeau aussi. N'hésitez pas à offrir...
Oui, que ce soit à vos proches, à vos amis, des petits cadeaux.
De représentations artistiques et culturelles.
Mais oui, quelle bonne idée, hein? Aller voir les calendriers, qu'est-ce qui se passe dans tous les théâtres, dans les salles de spectacle,
et
dans
les cinéma, bars. Ouais. Partout, hein?
Justement, on est allé dans des bars cette semaine avec le Tavern Tour du 9 au 11 février. On a fait une tournée assez chargée en musique. Il y avait plein de shows partout, Mont-Royal, Saint-Denis, Saint-Laurent. J'ai eu la chance d'aller voir Sophia Belle vendredi le 10 février. Ça tombait en même temps que sa sortie de Deluxe de son album Anxious Avoidant, oui. qui est sorti le 10, où est-ce qu'elle a 6 nouvelles chansons, donc 2 collabos, un avec Mac Michael et une autre avec la très chère Ariane Moffat, Angle mort de sa chanson. C'était vraiment une belle rencontre avec Sophia cette semaine. On s'est rencontrés. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vendredi dernier, il pleuvait. C'était bizarre comme température. Là. Il y avait slush, pluie, tout ça. Puis on s'est rencontrés juste avant le soundcheck au Quai des Brumes. Et on a pris, ils ont été tellement gentils qu'ils nous ont passé le bureau en haut pour faire l'entrevue, mais le plafond dégoûtait. Le plafond dégoûtait, mais honnêtement, j'ai trouvé que ça ajoutait un charme. Une espèce d'ambiance très comme, je sais pas, assez mythique. Là. On se retrouvait au Quai des Brumes. C'est un bar mythique, comme l'Esco aussi, où est-ce qu'il y avait Chaux Sauvages, où est-ce qu'il y avait comme... d'autres choses aussi, tu sais, le Triangle des Bermudes, Mont-Royal, Saint-Denis, l'Esco, la Roquette, le Quai des Brumes. Fait que j'ai fait cette entrevue-là dans le bureau avec un plafond qui dégoûtait. Mais oui, elle était super, très chaleureuse et contente de pouvoir échanger avec nous. On va pouvoir aller écouter l'entrevue tout à l'heure, mais en premier, je vais vous parler de son show qui était juste après. Donc... un show qu'on se déplaçait dans une ambiance assez féerique 2000. Sophia Belle, là, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait du emo pop punk. Elle a été à l'avant en 2016. Et c'est comme ça qu'elle connaît Ariane Moffat en allant à l'avant. Elle m'a raconté qu'elle s'était fait repêcher par Pierre Lapointe après Ariane Moffat, puis après s'éliminer. Grosse histoire. Mais c'est ça, elle fait de la musique assez pop-punk. Et elle s'est fait connaître avec la voix, mais aussi par l'apparition de ses deux EP, Princess of the Dead, volume 1 et 2, puis son premier album, Anxious Avoidant, en 2022. Puis là, c'était sa sortie de la version de luxe de cet album-là. Puis voilà, donc on est dans un mélange assez hétéroclite entre Avril Lavigne et Grimes, pour ceux qui connaissent les références. Donc ce show-là, c'est ça, j'avais quand même une bonne appréhension de ça. Et elle était vraiment haut en couleur, habillée dans un haut rose, aux épaules bombées, un peu translucide. Elle était accompagnée sur scène par 3 merveilleux musiciens au synthétiseur, basse, batterie, voix. Le quai était rempli. vraiment très rempli. Ils utilisaient les harmonies et différentes intonations de sa voix. Et même qu'un musicien du quai s'est rajouté à eux pendant une ou deux chansons avec un banjo. Donc, il y avait vraiment comme plein de différentes ambiances ensemble. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle nous transperce avec sa voix, là, Sophia. Elle utilise beaucoup les harmonies. Même des fois, il y avait des résonances avec Billie Eilish que j'ai beaucoup aimé. Okay. Les gens étaient là, étaient contents de la voir. Il y avait beaucoup d'amour du public.
L'ambiance, est-ce que l'ambiance crée le fait que ce soit dans un bar, c'est ça? Ça crée quand même une certaine proximité?
Oui.
C'était différent?
Oui, c'est ça. On n'était pas, mettons, à l'orchestre symphonique. Là. C'était comme, il y avait une ambiance, les gens étaient tous regroupés, il n'y avait pas beaucoup d'espace, c'était debout, au quai. C'est une musique qui est très qui remplit beaucoup l'espace. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, quand on parle de synthétiseurs, de voix différentes. Elle utilise beaucoup de différents styles dans sa musique. Donc, vraiment, ça crée une proximité qui était vraiment cool. Donc, j'ai hâte à ses prochains shows. Elle en a quelques-uns qui se préparent, je pense, mais rien de défini. Alors, oui, on peut aller écouter son entrevue.
Oui, pour... la connaître un peu plus.
Oui, connaître Sophia. Allô, vous écoutez Choc. Ici Florence, bénévole et reporter à mes heures, au Palmarès et pour l'émission Dans les airs. Je suis présentement dans les bureaux au Quai des Brumes en entrevue avec Sophia Bell qui va faire son show au Quai des Brumes ce soir. On est le vendredi 10 février. Sophia, comment tu vas?
Allô, ça va bien toi?
Oui, ça va full bien. Ça s'est bien passé, te rendre avec la pluie verglaçante?
Oui, ça s'est bien passé. J'ai pris un Uber, puis le monsieur était très gentil, il m'a aidé avec mes choses.
Ouais, ah, cool, tant mieux. Puis c'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu parler de toi, que j'ai vu ton nom en fait apparaître, c'était sur l'album Aquanaut de Ariane Moffat. Album vraiment multidisciplinaire où il y a plein d'artistes émergents qui figurent. Tu fais la chanson Point de mire. Et là, dans ton album de luxe qui est sorti aujourd'hui sur Anxious Avoidant, tu fais une autre collabo avec Ariane Moffat sur la chanson Les Angles Morts. Donc, deux très bonnes collabos. À quand remonte ta rencontre avec Ariane?
J'ai rencontré Ariane quand j'ai fait La Voix, saison 4. Je me souviens pas c'est quelle année, mais ça doit faire 6-7 ans. J'avais été dans son équipe, puis plusieurs années plus tard, elle m'a demandé d'être sur l'album... l'album Aquanaut 2022.
Oui, en avril 2022, ouais.
Ouais, puis j'étais contente parce que Point de mire, c'est une de mes chansons préférées comme trip-hop québécoise. Fait que j'étais vraiment contente de faire mon interprétation de cette chanson-là. Puis j'avais une chanson que j'avais initialement appelée Encore, qui manquait comme un hook. Puis j'ai pensé à Ariane. Je me suis dit que ça pourrait être nice de collaborer avec elle. Puis j'ai montré, puis tout de suite...
pour la chanson Les Angles Morts. Ouais.
Ah, ouais. Ça, c'est devenu Angles Morts quand Ariane a écrit le hook.
Ça
a comme complété la chanson. Ça lui a comme donné un sens... plus intéressant, je trouve, encore.
Donc, vous avez comme co-écrit ou...
Ouais, ben moi, j'avais écrit comme... Initialement, j'avais écrit deux verses, puis j'avais comme... Le reste est instrumental. Puis elle a écrit un genre de refrain pour aller dans le hook. C'est comme devenu... c'est comme une tune qui s'est écrite comme en deux jets.
Ouais. Mais en plus, c'est fou que tu dis ça, parce que je trouve que c'est... Ben, c'est très fusionnel, là. Ça, je veux dire, même la co-écriture, t'écoutes la chanson, puis c'est très... je sais pas, en symbiose, vos styles musicaux, même Point de mire, tu dis ça, moi, j'écoutais en boucle la version de Ariane Roy et Thierry Larose, suivie de la tienne sur Aquanaut. C'est vraiment une belle chanson aussi, là, Point de mire. Est-ce que c'est elle qui t'avait proposé la chanson?
Initialement, elle m'avait proposé une autre chanson que je connaissais pas. Je pourrais même pas te dire c'est laquelle. Puis, moi, j'étais comme, j'ai le goût de faire Point de mire, puis I guess que ça ne dérangeait pas qu'il y en ait deux versions. Fait que je suis bien contente qu'elle m'ait laissé faire Point de mire.
Très cool. Puis ça, c'est une Angle mort, c'est la chanson qui figure sur la version deluxe de ton album.
Ouais.
Aussi, tu as fait une autre collabo avec Mac Michael, Aftertaste.
Ouais.
Notre collabo, comment ça s'est passé, celle-là?
Ça aussi, c'était une chanson que j'avais comme écrit plusieurs... En fait, j'avais fait un instrumental il y a plusieurs années que j'avais jamais rien écrit dessus. Puis après, quand j'étais dans le processus d'écrire le reste de mon album, j'avais beaucoup d'influences pop-punk. Puis on dirait que quand je me suis mis un peu dans la tête de genre, OK, ça serait quoi une mélodie un peu à la Blink 182, Smashing Pumpkins, ce genre de truc-là. La mélodie de cette chanson-là m'est venue en tête, le hook. Puis j'ai trouvé que Mac... Ben Mac, en fait, c'est une bonne amie à moi. Puis j'ai juste trouvé que c'était un bon... c'était un bon fit. C'est que c'est comme une genre de petite balade... Ben, c'est pas vraiment une balade. C'est comme une petite track un peu... genre, candide, puis un peu, comme, sassy.
Je suis d'accord avec toi.
En français, là, mais ouais, je trouvais que c'était une bonne track pour avoir comme deux genre girlfriends qui chantent un petit hook catchy.
Oui, puis c'est la dernière chanson qui figure sur l'album. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est la dernière?
Je pense que c'est parce que littéralement, c'est comme aftertaste, tu sais, c'est comme...
Le goût de la fin, genre.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme l'arrière-goût, tu sais, dans l'album. Je passe par plein de trucs qui arrivent, tu sais, en relation. C'est pas tout à propos de la même personne. C'est comme... J'ai vécu plusieurs choses qui m'ont inspiré plusieurs chansons, mais je trouve qu'il y a quand même un storytelling de comme... personnellement, comment moi, je navigue les relations puis les émotions que j'ai... auxquelles j'ai fait face. Puis Aftertaste, c'est comme un peu... Ben, je sais pas que c'est moins deep, c'est juste un petit peu plus... fendant un peu, genre. C'est un peu genre... fuck you.
Ouais.
C'est ça.
Comme avec tout ce que j'ai vécu, voilà, puis...
Ouais. Je trouvais que c'était une belle façon de comme clôturer l'histoire.
Tellement tu parles de cette création-là dans ton processus créatif de ton premier album, que c'est vraiment où tu fais face à toi, tes moments de vulnérabilité. C'est un album assez comme thérapeutique qui t'a permis de grandir avec une recherche d'authenticité. La version deluxe de cet album-là, est-ce que c'est une continuité de cette recherche d'authenticité-là?
C'est deluxe, c'est comme... Il y a des choses que j'avais commencé dans le passé qui filaient, qui n'étaient pas vraiment dans la même histoire exactement. Fait que je voulais leur donner ces chansons-là, je voulais leur donner leur propre moment. Puis ça se trouve aussi à être beaucoup des collaborations. Fait que c'est peut-être un peu aussi pour ça que ça sort un petit peu plus du cadre dans lequel le reste des chansons se trouve. Mais je trouve que ça... Il y a quand même des liens à faire, puis ça fait un peu partie de l'histoire. C'est juste comme the deleted scenes, mettons, qu'on sort plus tard.
Ouais. Puis l'idée de faire un album de luxe, est-ce que c'est une idée qui est dans ton processus créatif depuis le départ? Est-ce que tu t'es dit, ah, quand j'ai créé cet album-là, je pense que je vais faire un album de luxe, ou c'est venu par la suite?
C'est venu par la suite, parce que j'ai plus le goût de comme... m'accrocher longtemps aux choses que je fais puis les laisser traîner. Fait que au lieu de garder ces chansons-là pour comme un prochain projet puis que là, je passe complètement à autre chose, je voulais les sortir pendant que ça filait assez fresh pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui change beaucoup. Avec le temps, on dirait que je change souvent un peu de direction, puis j'aime pas ça être pris un peu dans la même... je sais pas comment dire, genre, c'est un peu comme quand je fais le ménage chez nous, tu sais, faut que je me débarrasse des choses que je veux plus dans mon espace, puis c'est pas que je veux me débarrasser de ces tunes-là, justement, je voulais les partager, mais je voulais aussi, comme, tourner la page, puis avancer dans quelque chose de complètement nouveau. Mais c'était pas des chansons que je voulais non plus, comme, pas montrer à personne. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai fait le deluxe.
C'est quand même 6 chansons, donc un micro-album en soi. On a Lighter Fluid, Shades of Blue, Serotonin, No Sleep. Puis là, les deux collabos, on a Angle Mort et Aftertaste. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire de laisser ça comme... De mettre ça en comme en une espèce d'album, mais en continuité.
Ouais, Mais c'est aussi parce que dans le passé, j'ai eu beaucoup de chansons que j'ai comme commencé. Puis là, je me disais, ah, ça va être pour plus tard, ça va être pour un album plus tard, des choses de même. Puis là, finalement, je suis juste rendue tellement ailleurs que j'ai plus le goût de les sortir. Fait que là, fait qu'après ça, quand je les écoute, je suis comme nostalgique parce que je suis comme, ah, j'aurais juste pu les sortir quand c'était le temps. Fait que maintenant, je veux essayer de sortir plus de trucs plus souvent, puis pendant que ça file encore vrai pour moi.
Mm-hmm. Puis là, c'est ton retour sur scène ce soir au ouais. Quai des Brumes pour le Tavern Tour. Comment tu te sens de retourner, justement?
Ben, c'est le fun. Ça va être plein de nouvelles chansons que j'ai essentiellement pas jouées. Il y en a une couple que j'ai jouées genre une fois, mais on va comme casser des tunes. Fait que ça, c'est toujours le fun de voir comment ça prend vie en live, parce qu'il y a toujours comme une différence entre écouter un album puis l'écouter live. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça prend forme. Puis c'est mon premier show de l'année 2023. Fait que c'est le fun aussi.
Ben oui, je te souhaite d'avoir du fun. Puis le Quai des Brumes, salle mythique à Montréal, dans le Triangle des Bermudes avec l'ESCO et La Roquette. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette salle-là?
Ben ça représente un peu comme... C'est comme tu dis, c'est mythique, puis c'est comme... Mettons, c'est une des premières places que je me souviens comme en arrivant à Montréal, qui était comme la place cool qu'il fallait aller voir. Fait que moi, ça représente comme... Ça représente... quelque chose de mystique, I guess, ouais, comme t'as dit.
Très cool. Et tu vas avoir en première partie Kaya Oaks?
Ouais.
Ouais. Est-ce que c'est la première fois que comment en fait ça s'est fait pour cette première partie-là?
Ah, je sais pas. Je l'ai découvert de cette façon-là. Oui. C'est le Tavern Tour qui l'a booké. Je suis allée voir qu'est-ce qu'elle fait, puis c'est cool.
Très cool. Ouais. Très cool. Puis qu'est-ce que tu te souhaites, mettons, pour 2023? Là, on commence avec un premier show le 10 février, Quai des Brumes. Qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite?
Je me souhaite de trouver une balance, parce que je trouve que je suis très... Je pogne des fixes, genre, sur une chose à la fois, puis là, je vois plus rien de ce qui se passe autour. Fait que j'aimerais être capable de trouver une balance, puis faire un peu de tout à chaque jour. T'sais, trouver une routine plus balancé.
Hein? Mais très ouais. Cool. Puis mettons pour les auditeurs de choc qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais de rajouter par rapport à tout ça?
Rajouter. My God, c'est toujours les questions on the spot. ben je souhaite à tout le monde d'avancer dans leur développement personnel, puis d'être heureux, I guess.
Oui, on se souhaite ça. Ben, ouais. Merci beaucoup, Sophia, pour être passée à Choc. Puis là, je te souhaite un bon soundcheck et un bon show que je vais avoir la chance de voir aussi.
Merci.
Donc, à la prochaine.
À la prochaine, merci.
Je me suis cherchée. Et j'apprends.
écoutez Dans les airs à choc.ca avec Florence et Raja, moi-même.
Oui, et c'était l'entrevue avec Sophia Bell. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi. Et maintenant, sur les airs du Taverne Tour, des bars, du Focoff, on va aller appeler Estelle, la directrice musicale de Choc, qui va nous en dire un peu plus sur son expérience du Taverne Tour, elle-même qui l'a vécu. Mais elle n'est pas allée voir les mêmes shows, puis elle est allée au Focoff aussi, oui. Voir le Ballon Bleu avec Velours Velours. Donc, on l'appelle. C'est une première, un appel téléphonique. Donc, voilà.
Et ça serait intéressant aussi d'avoir son avis. Elle, oui. Qui s'occupe de...
Alors, ça sonne...
Allô?
Allô, Estelle?
Salut, Estelle.
Comment ça va?
Oui, c'est moi. Allô?
Oui, hey, on est contente. C'est le premier appel téléphonique qu'on fait et ça fonctionne. là, tu nous parles directement de Québec, si je ne me trompe pas.
C'est exactement ça, oui.
Oui, puis pourquoi tu étais à Québec?
Parce que c'est le focus, mon Dieu, parce que c'est déjà le début de l'entrevue.
Ah oui, c'est déjà le début de l'entrevue. Donc, tu étais au Focoff cette fin de semaine, c'est bien ça? Donc, le Focoff qui est du 10 au 18 février?
C'est ça, je pense, oui. En fait, ça commençait vendredi dernier. Ça se poursuit jusqu'à la fin de semaine prochaine. Le Focoff, c'est un festival un peu hybride à Québec entre des spectacles et ce qu'on appelle les vitrines.
Mm-hmm.
Et là, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, des vitrines.
Oui, mais c'est ça, une vitrine. Tu pourrais-tu nous expliquer un peu le concept, en fait, qui est différent d'un spectacle ou d'un show, une vitrine culturelle, c'est ça? Hein?
La grande différence, en fait, c'est qu'un spectacle, c'est un groupe de musique qui va sur scène, qui va jouer des chansons devant un public. Des gens qui sont juste des amateurs, des gens qui aiment le band, qui ont envie de voir le groupe en spectacle, les encourager d'aller les voir, de passer une belle soirée. Mais ce genre de spectacle-là peut difficilement arriver s'il n'y a pas des vitrines. Aussi, c'est à côté de l'industrie dont on parle vraiment pas. Quand on parle de vitrines, on parle vraiment d'événements qui sont organisés principalement pour les gens de l'industrie de la musique. Autrement dit, les personnes qui vont s'occuper des programmateurs de salles, par exemple, des programmateurs de festivals, toutes les personnes-là qui, ben, pour programmer un show quelque part dans ta salle de spectacle, dans ta maison de culture, dans ton festival, il faut que tu aies un peu une idée de qu'est-ce que tu programmes. Et c'est là que viennent les vitrines. Ce sont des spectacles, dans le cas du Focoff, qui sont assez courts. Là, on parle ici d'une vingtaine de minutes à peu près. En fait, au Focoff, c'est exactement 20 minutes la durée.
Ah ouais, donc,
c'est
devant
un spectacle qui doit être quand même assez stressant parce que c'est devant des gens de l'industrie. T'es comme là pour te vendre, pour vendre ton spectacle, pour vendre ton concept. Donc, c'est important d'arriver avec quelque chose qui est bien fait, qui est bien préparé pour pouvoir peut-être être programmé dans les festivals qui s'en viennent avec.
OK, d'où le nom vitrine, en fait.
Okay. Ben, c'est exactement ça. Okay. La même façon que des fois, tu passes devant un magasin de vêtements puis il y a une robe vraiment belle en vitrine, tu te dis « Ah, oh, je vais l'acheter ».
Quand met en vitrine.
Et là, ces gens-là sont à Québec pour pas mal toute la semaine pour voir différents groupes. Qui... En vrai, il y en a tellement. Là, il y a des soirées comme là, par exemple, quand ce soir, je vais aller fort probablement là, à la vitrine qui va être à l'Anti-Bar et Spectacle où il y a quatre artistes qui vont se succéder. Electric Young Cloud, Lid, qui est numéro 1 en ce moment dans le palmarès, si je ne me trompe pas, ainsi que Russell Lauder et Shinako. Shinako, je sais que c'est un excellent spectacle, je l'ai vu, mais en spectacle régulier, il y a de cela plusieurs mois. Donc, c'est là qu'il y a souvent des trucs où ça va être des étiquettes de disques, des regroupements d'artistes qui vont mettre ça en place. Par exemple, ce soir, il y a aussi une vitrine, je pense qui t'intéresserait beaucoup, Florence, là, avec toute la gang de Bon Bon Bon.
Ah ouais, entre, hein?
Donc, Arrête Souci, Vanille.
Oui, totalement Arrête, sublime. Vanille,
Allô Fantôme est totalement sublime.
Ouais.
Puis, dans le cas de Vanille, elle a aussi fait un vrai spectacle. C'était ce vendredi, c'est son lancement d'album à Québec. Et c'est ça qui arrive. Il y a des vitrines. Puis, des fois, il y a moyen, là, quand c'est un kidam qui aime un band, de venir faire un petit tour, de sneak, d'acheter un billet. Mais il y a très, très peu de billets qui sont ouverts au public. C'est vraiment plus quelque chose pour l'industrie, lorsqu'il y a même temps des vitrines. Cela dit, il y a de vrais spectacles. Entre autres, j'ai été revoir, en fait, le Ballon Bleu.
Oui.
C'était un vrai spectacle. Donc, les gens qui étaient là, c'est des gens qui avaient envie d'être là. C'était des gens qui aimaient déjà Velours Velours, qui avaient envie de crier au bout de leur corde vocale les paroles de Le Chien énorme et gentil. Les gens étaient déguisés. Les gens étaient moins déguisés qu'à Montréal, par contre.
Ah ouais?
À Montréal, pour le Ballon Bleu, vraiment, il y avait une atmosphère de fête. Les gens portaient de magnifiques robes, de magnifiques habits.
Ils ont joué le jeu.
Il y a des gens qui se sont bookés visite dans des salons pour se faire faire les ongles pour l'occasion. Tandis que vendredi, c'était plus comme « Oh, ben, j'ai une chemise bleue. »
Ah ouais,
c'est plus
okay.
un peu la vibe.
Okay.
Mais il y a des spectacles qui s'en viennent quand même, des vrais spectacles pour les gens. Si vous êtes de Québec et vous voulez voir des shows, il y en a qui s'en viennent. C'est plus à partir de jeudi. Entre autres, le spectacle de J'entends personne qui aura jeudi au Pantoum. Saint-Lucas et la Roi, si vous voulez quelque chose de plus pop, ça va être à Lanty. Il y a Mantis qui va faire son lancement également à Québec, son lancement pour son album qui est paru il y a quand même quelques mois. J'ai eu la chance de voir le lancement lorsque ça avait lieu au ministère au mois d'octobre à Montréal. Donc, c'est la chance pour les gens de Québec d'y assister. Il y aura également une soirée belge, une soirée club belge qui aura lieu à la Maison pour la danse. Donc, si vous avez envie de vous trémousser sous le son des meilleures frites possibles, ben voilà, ça sera ici que ça se passera. Et ça se continue jusqu'au samedi là, avec un concert de You Do Right et Gus Engelhorn, un artiste culte dans la ville de Québec. Il y a aussi des spectacles de métal. Voir hockey, de voir... Mon Dieu, je ne sais même pas comment prononcer ce nom-là. Gunthwaite. Je le prononce tout de même, en tout cas, parce qu'évidemment, Québec, c'est une ville qui respire le métal. Tout le monde ici a au moins 2-3 albums de Metallica dans leur collection. Donc, on peut oublier le métal, évidemment. Des spectacles qui ont lieu, donc, au Scanner Bistro. Beaucoup de vitrines, beaucoup de spectacles. J'avais vraiment pas le temps de tout voir. Surtout qu'il y a des concerts. Il y en a fait un aujourd'hui et un autre demain qui ont lieu à 10h30 du matin. Mais en même temps, il y a des spectacles qui commencent à 1h du matin la veille.
Oh, wow! Voilà. Okay, 10h30 du matin.
À minuit 50. Si je vais voir le spectacle, c'est même si c'est juste une vitrine, ça finit à 1h10. Il faut que je rentre chez nous. Il faut que, tu sais, ça fait des petites nuits de semaine. C'est sûr que je saute la vitrine de Soleil Lumière et Samuel demain matin. En fait, je vais sauter la vitrine tout de suite. Je ne serai pas là. Il y a également plusieurs événements qui ont lieu, beaucoup de tables rondes, beaucoup de tête-à-tête, beaucoup de réseautage, puis bon, c'est des choses qui m'intéressent un peu moins en tant que directrice musicale. Nous autres, c'est cool d'aller jaser à du monde,
mais si ça vous intéresse,
en même temps, je comprends pas, parce que ça, c'est des spectacles qui servent exclusivement à réseauter et à jaser avec les gens. C'est vrai que tu avoir des spectacles, les gens, ils jasent encore. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il devrait avoir plus de réseautage avant le spectacle, que les gens arrêtent de parler pendant les shows de grâce.
Ah oui, hey, non, ça, c'est pas grave. Tout le monde, attendez la fin du show avant de parler.
Profitons du spectacle.
Ah, mon Dieu.
J'ai parlé avec les gens de Fudge hier à propos de ça. Il y en a qui a dit, c'est vraiment quelqu'un qui se promène en foule avec un micro et un mégaphone, genre juste pour aller voir le monde qui ont des conversations, qui mettent ça comme pour que tout le monde puisse bien prendre la conversation, parce que clairement, c'est vraiment important ce que tu as dit. Ça fait que tout le monde entend comme il faut, puis pas juste un petit...
Ah non,
de loin.
Sais.
Mais ouais, non, ça met vos gueules, là.
Vraiment.
Il y a du monde qui a payé pour avoir des billets, là. Ta fin de semaine, là, tu vas pouvoir en parler dans 20 minutes.
Ça m'est arrivé, là, j'en parlerai plus au palmarès cette semaine, mais avec le show de Allô Fantôme au Tavern Tour cette semaine, c'était un double set avec de Célise, le groupe de musique ontarien, là.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, dans la foule, il y avait... il y avait comme des gens qui parlaient parce qu'ils comprenaient pas... En tout cas, ils comprenaient pas qu'il y avait Allô Fantôme aussi. Puis j'étais comme, écoutez les deux! Oh mon Dieu, c'était très pêle-mêle.
C'est tellement frustrant. Puis dans le cas d'un double plateau, c'est des choses qui arrivent aussi parce que... Tu sais, t'as des gens qui viennent parce que...
Ouais, c'est ça.
Je peux pas le dire. Bonjour, même, j'ai pu voir le spectacle au Tavernetour de Lâche. Ok, t'as pas partie des choses sauvages. J'ai manqué des choses sauvages parce qu'il fallait que je me prépare pas pour partir avec. Mais c'est ça, les gens parlaient tellement. Les gens qui étaient devant la scène ont parlé très fort.
Oh non.
Même la chanteuse, je l'ai vu, ça l'a dérangé. C'est un spectacle absolument incroyable. J'étais en extase quasiment tout le long, sauf la chanson plus douce, parce que là, on entendait vraiment tout le monde parler. Genre, comme dans la gueule, là.
Ouais. Vraiment.
On va te cacher, là. Tout le monde paye, là.
Hey, mais...
Donc, personne n'a payé pour venir voir, là.
Ouais, puis c'est, tu sais, c'est le respect aux artistes aussi, là. C'est la moindre des choses, en tout cas, quand on va voir des spectacles, d'être là, présent, avec eux, tu sais. Ils livrent quelque chose sur scène, fait que faut être réceptif, faut le recevoir. Même si c'est pas dans nos goûts musicaux, là. Ouais.
C'est tellement rushant, en plus. On sait que tout le monde le sait. C'est tellement rushant qu'un artiste en 2023, que ce soit pas une maudite scène avec le streaming, des affaires avec la radio Sirius, en sorte qu'il y a plein de choses La seule façon de faire de la monnaie des fois, c'est peut-être dans des spectacles, qui encore là, c'est pas toujours facile. Les artistes ont leur santé mentale au bout du rouleau, comme peux-tu prendre un break? Au pire texte, rendu là, moi, voir du monde sur leur téléphone pendant un spectacle, ça me dérange aucunement.
Texte ton ami que tu veux une bière au bar, là, dis-le pas. C'est comme, au pire, ouais, passe les petits messages. Ouais.
Ben voilà.
Voilà. Ben merci beaucoup, Estelle. Puis donc, vous savez.
Ben voilà, c'est ma. Oui.
Ouais, vous savez quel est le rendez-vous à Québec en ce moment, le Focoff. Toutes les informations et les dates des vitrines, des shows sont sur le site focoff.ca. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup, Estelle, de nous avoir fait cette couverture-là.
Oui, cette couverture et ton retour et tes conseils aussi.
Ben, ça fait plaisir, ce show, c'est focoff.com.
Ah, focoff.com, t'as raison. Merci beaucoup.
Oui, et impression. Assurez-vous, là, le foc, c'est vraiment l'animal. Si oui, vous faites autre chose, là, je ne sais pas où vous allez tomber.
Focoff, ouais. Ouais, non, j'avoue que c'est vraiment le P-H-O-Q-U-E. Donc, merci beaucoup, Estelle, de cette couverture-là. Merci. Exact. Puis profite bien du festival de musique complètement déjanté à Québec. Merci.
Oui. Parfait. Au revoir.
Au revoir, bye.
On se laisse en musique avec Mon petit chemin par Vanille.
Dans les airs. On se promène un peu partout cette semaine pour quitter les planchers collants des tavernes du Taverne Tour et le Focoff à Québec. On quitte cette sueur de salle et de vitrine pour aller dans un univers envoûtant à la salle Pierre-Mercure où on retrouve Serhiy Salov, grand pianiste ukrainien, accompagné du quatuor à cordes Pro Musica, le dimanche 19 février prochain. Donc, vous le notez bien, c'est dimanche qui s'en vient. Ça va être un événement super en couleurs et en musique, dans un univers où on retrouve justement ce deuxième concert de la série Carte Blanche de Pro Musica, où on retrouve le célèbre pianiste Serhiy Salov, un instrumentiste de renommée internationale quand même. On retrouve dans sa carrière qui l'a conduit en Belgique, en Allemagne, à Montréal, en France, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni. Il a donné des concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal à plusieurs reprises, l'Orchestre national de Radio France, l'Orchestre philharmonique royal de Liverpool, l'Orchestre philharmonique royal et l'Orchestre symphonique de Tokyo. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, hein,
oui.
D'avoir ça à Montréal. C'est quand même exceptionnel, là.
Exactement, il faut en profiter. Et comme on disait tout à l'heure, c'est l'occasion de faire des cadeaux.
Oui, des cadeaux. Ah oui, c'est vrai. Pour votre date à la Saint-Valentin, vous savez où l'amener. Ou, tu sais, votre frère, votre mère, votre soeur, oui. Votre cousin, votre vous-même. Si vous voulez vous l'offrir à vous.
Oui.
Mais c'est une expérience, une initiative très, très belle. On a la chance d'aller rencontrer Noémie Raymond Frisette, violoncelliste du quatuor à cordes de Pro Musica, qui va nous parler un peu plus de ce spectacle en profondeur. Alors, on vous laisse avec un autre appel téléphonique. J'espère que vous n'êtes pas tannés de ces appels, car on est très heureuse de la rencontrer ici à Dans les airs à Choc. Noémie, comment est-ce que ça va?
Ça va très bien.
Oui, ça va bien. Donc, dans ce quatuor à cordes qui est formé de Marie Bégin, Abbé Schwach, Wash au violon et Cynthia Blanchon à l'alto, ainsi que toi au violoncelle, est-ce que ça fait longtemps que vous collaborez ensemble, ce quatuor à cordes?
Oui, mais dans mon cas, en fait, c'est assez nouveau parce que le quatuor Pro Musica a été formé l'année dernière par quatre musiciens qui ont fait partie des Mélodines. Et à l'époque, c'était Dominique Beauséjour-Ostigui qui faisait le violoncelle. Mais il n'était pas disponible cette fois-ci, donc c'est moi qui ai sauté dans l'aventure. J'avais déjà un rapport avec Pro Musica, vu que j'avais fait partie des Mélodines l'année d'avant. Donc, quand on m'a invité, j'ai dit oui tout de suite, c'est un beau projet. Fait que ça me faisait très, très plaisir d'en faire partie.
Oui, j'imagine. Puis, justement, violoncelliste, donc d'une carrière assez internationale où on a vu que tu t'es produit sur quatre continents à travers plein de projets. Pourquoi avoir choisi Montréal pour ce concert avec Serhiy Salov dimanche prochain?
Bien, en fait, j'ai eu la chance d'être invitée pour participer au projet qui se fait à Montréal. Je suis basée à Montréal, malgré que je suis à l'étranger une fois de temps en temps, comme présentement. Je suis en direct du Mexique pour un autre festival de musique de chambre. Je vais revenir pour le concert de Pro Musica. Donc, pour moi, c'est important quand même de tous mes projets à Montréal. C'est là que je réside, c'est là où j'ai grandi. Donc, ça a toujours été important pour moi de garder un pied à terre puis de participer comme concert avec Serhiy Salov. Dans le fond, des musiciens exceptionnels du Québec, c'est vraiment une chance.
Oui, j'imagine. Donc, en direct du Mexique, c'est pas rien quand même de faire le déplacement jusqu'à Montréal pour dimanche. Quel est le rendez-vous annoncé au spectacle dimanche?
Le rendez-vous dans quel sens?
Le rendez-vous annoncé, qu'est-ce qui nous réserve ce spectacle-là en termes de musique, en termes d'expérience?
Oui, mais en fait, ça va être très unique parce que c'est deux. En fait, les piliers du concert vont être deux concertos pour piano, donc un concerto de Mozart, un concerto de Chopin, mais avec un arrangement pour quatuor à cordes plutôt qu'orchestre. Donc, ça donne vraiment un côté intime au concerto qu'on ne retrouve pas avec orchestre. Et puis, Serhiy va jouer deux œuvres avant chaque concerto qui va aussi lier avec les concertos, faire une improvisation. Il veut garder ça un peu secret pour faire la surprise, donc j'en dirai pas plus que ça. Ouh. Mais ça va vraiment être un concert original que je pense pas que personne va vraiment avoir jamais entendu ce format-là, la façon dont ça va être présenté. Donc ça devrait être un beau concert original.
Ah oui, puis justement, c'est le deuxième concert de la série Carte Blanche de Pro Musica. Comme on voit au programme, C'est intéressant, ça, parce que le programme a l'air assez classique, mais le rendez-vous va être là, je pense, d'amener une couche qui est plus originale, justement, à l'extérieur des grandes œuvres de Chopin et de Mozart.
Tout à fait.
Oui. Est-ce que ça va être votre collaboration? Est-ce qu'avec Serhiy Vsalov, c'est votre première collaboration avec lui?
Oui, c'est la première fois qu'on va jouer ensemble. Puis, c'est une belle occasion pour faire une première collaboration. C'est vraiment un plaisir de jouer avec Serhiy. Puis, j'avais déjà collaboré avec Marie Bégin, mais avec Cynthia Blanchon et Abby, ça va être la première fois aussi. Donc, c'est vraiment une occasion de belles rencontres musicales.
Mm-hmm. Moi, en fait, j'ai une question. Tu nous as dit qu'en fait, tu as rejoint après. C'est que le groupe est comme s'il a déjà été constitué. Je voudrais savoir, est-ce que ça a été facile, le fait de s'adapter à ce groupe qui jouait déjà? Et comment s'est faite ton intégration?
En fait, l'intégration s'est très bien faite. C'est une musicienne quand même que je connaissais déjà. Malgré le fait de ne pas avoir joué avec la plupart d'entre elles et Serhiy. Mais bon, c'est de la musique de chambre, donc ça, c'est vraiment ce que je fais. Là. Ma carrière est orientée principalement là-dessus. Donc, c'est un nouveau groupe, mais ça reste de la musique de chambre.
Ça reste donc, votre
À ce niveau-là, c'est ça. Ça reste mon domaine. Et puis, c'est vraiment un plaisir. Pour moi, c'est difficile de mesurer la différence par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière.
Oui, puis c'est une super belle expérience, surtout avec le pianiste Serhiy Vsalov, qui est un grand pianiste ukrainien qui a fait beaucoup de projets. Et puis, donc c'est ça. Les billets sont encore disponibles sur promusica.qc.ca pour ce dimanche 19 février à 15h. Aussi, Noémie, tu as sorti un album Cell Opera du duo Cavatine avec Michel Alexandre Brocarte en octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à nos auditeurs, à Choc, pour le spectacle, mais aussi ton nouveau projet d'album?
Ah ben oui, certainement. En fait, ça me fait plaisir de partager avec tout le monde notre beau projet Cell Opera qui a été lancé le 12 octobre dernier. Et c'est dans le fond des arrangements pour violoncelle piano de plus grands airs d'opéra. On a inclus là-dedans aussi le Vaisseau d'or, qui est vraiment un magnifique air québécois, basé sur le poème d'Émile Nelligan. Et puis, c'est la musique d'André Gagnon pour l'opéra Nelligan. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et puis, ça va donner... C'est vraiment un disque facile d'approche. Et c'est une expérience qui est tout à fait différente que le concert qui va être offert à Pro Musica. Malgré que les deux offrent quelque chose d'intéressant en offrant, dans le fond, une nouvelle perspective sur des pièces qui sont déjà connues. Donc, ça offre vraiment une expérience renouvelée. Et voilà, j'invite tout le monde à écouter notre disque Cell Opera sur les plus grandes plateformes. Maintenant, il est sur Apple Music, Spotify, donc les gens peuvent l'écouter en ligne. Et pour le concert, c'est un rendez-vous le 19 février prochain à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé à Choc. Et oui, c'est un rendez-vous le dimanche prochain. Allez vous procurer vos billets vite avant que ce soit terminé. Merci Noémie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
On se laisse sur une interprétation par le duo Cavatine de Noémie et de Michel-Alexandre Brocarte sur la chanson Summertime par Gershwin. Thank you.
maintenant, je vais vous parler de Aphrodisiac, le One Woman Show ou le solo théâtre de Marilyn Chéry. Alors, Aphrodisiac est une représentation théâtrale où la protagoniste interroge la relation de la femme noire, brune et métisse aux cheveux, à cette construction identitaire qui se fait dès le jeune âge. Alors, elle met en scène une petite fille de 13 ans qui s'appelle Maddy et qui vit tous ces questionnements qui partent de la blessure à la guérison. C'était un spectacle incroyable qui rassemblait les personnes de toutes origines et des personnes de toutes les âges, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir d'être partie voir ce spectacle-là mercredi dernier. Il se joue on peut dire, on n'espère pas, mais en dernière représentation, ce vendredi 17 février à 19h30 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Marilyn Chéry, qui partage la scène avec Paco, Alexis de son nom, et donc Paco qui est le musicien également et qui est venu aussi également, que j'ai pu interviewer. Et donc, Paco avait créé tout un univers musical propre au spectacle. Ils vont d'ailleurs sortir le EP, tellement c'était unique et tellement c'était une création de A à Z propre. Et donc voilà, j'ai échangé avec eux autour du spectacle, autour de l'idée d'où lui était venu le travail qu'elle a fait derrière parce que le théâtre est vraiment loin de tous les clichés qu'on peut avoir. C'est vraiment un travail en profondeur. Elle m'a raconté qu'elle avait fait des entretiens individuels pour retracer vraiment ce ressenti, cette blessure là et donc voilà, donc elle met en scène plusieurs personnages, une histoire émouvante, pleine d'émotions et drôle également. Donc voilà, je rappelle, notez bien, c'est le 17 février, ce vendredi-là, à 19h.
Oui. C'est bientôt.
Oui, soyez rapides, parce qu'il reste limite très 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 peu de place. Et donc voilà, on vous laisse avec l'interview de Marilyn et Alexis. Et donc voilà, soyez nombreux, soyez rapides.
Oui, et merci d'avoir écouté cet épisode. On vous laisse sur cette super belle entrevue. Oui. Puis on va être de retour à Dans les airs avec plein d'autres propositions cette semaine. Merci à tous les intervenants, que ce soit Sophia Bell, Marie-Lise, Estelle et Noémie, Dieu. Merci d'avoir participé à cette émission et notez à vos calendriers les rendez-vous annoncés.
Exactement. Une semaine très riche.
Oui. Merci Raja d'avoir été avec moi.
Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alexis et Marilyn Chéry. Marilyn, comédienne d'origine haïtienne et de famille artistique. Mm-hmm. Dramaturge et improvisatrice qui a étudié les arts de la scène à l'Université de Concordia.
C'est vrai.
Bonjour Marilyn et bonjour Alexis. Et,
bonjour.
Bienvenue à Dans les airs.
C'est bonjour, choc. Merci de nous recevoir.
Yeah. Alors, vous êtes ici pour la pièce, pour le solo théâtre Aphrodisiac.
Ouais.
Marilyn, tu es l'autrice et l'interprète
ouais.
De ce solo théâtre que tu joueras d'ailleurs le vendredi 17 février à 19h30 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.
Ouais.
Aphrodisiac, qui est un solo théâtre qui traite du conflit intérieur, on peut dire ça comme ça, déclenché par les cheveux afro ou comme que tu dis par la nuque noire.
La nuque femmes. Noire, ouh, ouais. Hein.
Tu retraces un parcours de vie allant du mal-être à la guérison, le parcours de vie de Maddy, une jeune fille de 13 ans afro-descendante.
Ouais.
Alors, ma première question, qui pourra paraître un peu bateau, mais est-ce qu'on retrouve dans l'histoire de Maddy l'histoire de Marilyn?
Ouf, pas directement, pas directement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vécues de manière différente, à différents niveaux. Tu sais, c'est une pièce qui a été inspirée par beaucoup d'entrevues avec des spécialistes en cheveux naturels, des femmes de tout horizon, là, tu sais, comme des ados, jeunes adultes, des femmes plus âgées, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Donc, c'est toutes des femmes qui ont vécu les mêmes expériences que Maddy à des niveaux différents, pas de la même manière. Des fois, ça a été des bonnes fins, des fins plus douloureuses, mais... je comprends tout ce que m'a dit vie, disons.
OK. En fait, c'est plus des expériences, des entretiens que tu avais menés avec des personnes. Et c'est l'histoire, c'est comme une histoire collective de personnes. C'est plus ça.
C'est inspiré de, mais tu sais, il n'y a rien qui est du mot à mot. Ce n'est pas nécessairement du témoignage, oui. Mais c'est vraiment des expériences qui sont propres à toute personne afro-descendante, là, je dirais, qui a vécu ici oui. Et qui se questionne, qui aurait vécu le drame de la permanente dans sa oui. vie. Il y a les codes que tout le monde reconnaît là-dedans, absolument.
Et les personnages que tu joues sur scène, est-ce oui. que ce sont des... eux aussi, ce sont des personnages qui ont été comme inspirés de ces histoires, ou est-ce que c'est des personnages réels que tu as connus et que tu as mystifiés ou,
les personnages qui sont plus historiques, ça c'est plus une question de... C'est le filon que j'ai choisi en tant que dramaturge pour vraiment tisser toute l'histoire ensemble. Fait que ça, c'est pas nécessairement des gens que j'ai connus. Alors ça, les personnages fictifs,
oui.
On parle à monsieur le directeur Trudeau, monsieur le prof d'histoire, monsieur Legault, le prof de gym, monsieur Duhem, bon. On s'entend, hein? Oui. Kevin, le petit gars. T'sais. C'est inspiré peut-être de microagressions, de choses que j'ai perçues aussi pendant la pandémie, de discours sur le racisme systémique qui peut-être ou peut-être oui. pas n'existe pas au Québec. Mais après ça, c'est vraiment des archétypes inspirés t'sais, de microagressions, de commentaires que, disons, toute ma vie, j'ai reçus, mais qui s'apparentent à... des commentaires que toutes les autres femmes que j'ai interviewées ont reçus également. Tu sais, on est vraiment dans quelque chose de très commun là, qu'on a toutes vécu. Puis je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas se rendre ça cute, drôle, agréable? Puis on va enrober ça avec un personnage qui s'appelle M. Trudeau, disons. Voilà. Le directeur de l'école, c'est lui. C'est lui qui décide. M. Legault, il nous enseigne notre histoire. Tu sais, c'est comme on se fait un peu mansplain certaines choses. Pourquoi pas? Moi, je trouvais ça très comique. Puis aussi parce que je suis clown. Je suis clown puis actrice physique. Fait, moi,
et on peut voir ça aussi dans le spectacle qui est très drôle, à la fois touchant, à la fois inspirant et ouais. très, très drôle.
Ouais, ouais. On voit tout ça.
Oui. Je reviendrai aussi sur l'idée du spectacle, l'idée de parler des cheveux, des femmes noires, brunes et métisses.
Ouais.
Et le rapport que ça a à l'identité de ces jeunes filles, de ces femmes.
Ouais.
Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit je veux traiter de ce sujet-là, ou est-ce que c'est venu... Comment t'es venue l'idée, en fait?
Mais tu sais, en soi, ça a vraiment été durant ma dernière année d'université à Concordia. J'avais un cours qui s'appelait Oral History Performances. Puis tu sais, c'était vraiment une classe où on apprenait des choses sur le théâtre engagé, le théâtre communautaire de guérison aussi, qui était utilisé comme un véhicule pour vraiment la guérison de communauté X. Puis, c'est dans cette classe que j'ai rencontré ma metteuse en scène, ma bonne chum, oui. Lydie Dubuisson, qui a fait un très beau travail que j'aime d'amour. Et à partir de là, tu sais, il fallait choisir un sujet qui nous habitait puis en parler. Puis moi, ça faisait quelques années que j'avais remarqué le mouvement des cheveux naturels en Amérique du Nord, en Afrique, en Afrique du Sud, surtout avec des petites filles qui voulaient vraiment porter leurs cheveux crépus, normal, sans se mettre des tissages. Et moi, ça m'a vraiment intriguée. Puis c'est de là que j'ai commencé à conduire plusieurs entrevues. T'sais, puis de la même manière que ici, il y a quelques années, au centre-ville, il y avait la femme noire qui avait gagné son procès. C'est contre le restaurant où elle travaillait. Là, j'oublie le nom du restaurant et de la femme, mais c'était parce qu'elle portait des tresses, tout ça, puis ses cheveux naturels, puis on disait que c'était non professionnel, puis elle avait été renvoyée, puis elle a gagné. Elle a eu gain de cause il y a quelques années, justement, à cause de ce racisme capillaire, rappelons-le ainsi.
Racisme latent. Ok, et donc c'est de là où tu es venue comme l'idée et tu as commencé les entretiens pour travailler parce ouais. qu'on remarque qu'il y a un réel travail en profondeur sur le sujet. Ce n'est pas juste tu relates les histoires, les témoignages, tu en fais un sujet, mais il y a un travail de recherche aussi.
Ouais.
J'avais vu une entrevue où tu disais que la pandémie t'a permis de te ressourcer, de travailler sur ta créativité.
Ouais.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es documentée davantage sur le sujet ou...
Non, franchement, les entrevues... Moi, cette recherche-là, je la fais depuis 2016-2017. Ça fait un bail, tu sais. Puis il y a eu des labos, il y a eu plein de versions du texte différentes qui sont sorties de ça. Ça a commencé en, tu sais, une perfo de 5 minutes en classe. Après ça, 30, 45, une heure et demie. Puis là, c'est un 2 heures, oui. Tu sais. La version aboutie de 2 heures, c'est le texte que j'ai vraiment travaillé avec le Centre des auteurs dramatiques, avec ma conseillère dramaturgique, Sarah Dion. On avait vraiment travaillé fort là-dessus. Puis, en fait, ça m'est venu de la version labo que un de mes cousins avait vu jadis, j'utilise des grands mots à la radio, jadis. Puis il m'a dit, moi j'adore ça, mais j'aimerais que tu fasses parler le cheveu. Bon, il était un peu high, je vais l'admettre. Puis là je me disais, ah Carl.
Les bonnes idées viennent souvent.
Ben oui, là je suis comme Carl, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Puis là en y réfléchissant, je me suis dit, ah non, tu sais, moi je suis clown. J'aime ça, la science-fiction. Je me suis dit, hey, attends une minute. Hold on! T'sais, puis là, c'est là que je me suis dit, comment on fait parler le cheveu? Puis, sincèrement, avec tous les documentaires, il y a eu des films comme Good Hair de Chris Rock. Il y a plusieurs choses sur les cheveux. C'est toujours moralisateur. Puis, c'est toujours du fait, du fact. C'est factuel. Puis, moi, ça m'a un peu énervée. Puis, je me suis dit, non, on fait une comédie quand même. Tragique, on va se l'admettre, tragicomique. Mais tu sais, je voulais... Ouais, comment on fait pour joindre l'utile à l'agréable? Puis aussi parce que moi, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, fait que j'ai fait du gros fast-food là, de show. Là. T'sais, j'appelle ça du off-off Broadway show, là. T'sais, paillettes, chansons et danse. Il y a longtemps. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, comment on mélange du théâtre, là, engagé avec du fast-food, là, entertainment, puis on fait quelque chose d'agréable que les gens adorent, où les gens pleurent, les gens rient, mais ils ressortent de là, là vraiment riches, tu sais.
Oui.
Donc, ouais.
Et c'est réussi, c'est vraiment réussi.
Mais merci bien.
Bravo à toi, bravo Alexis.
Merci.
On t'a vu sur scène également.
Oui.
Oui, avec le personnage de DJ, Hémisphère G, c'est bien ça.
Oui, et, exactement.
Et tu étais également t'occupais de la musique et de tous les effets sonores.
Oui, ben ça a été un travail aussi. Ça fait à peu près 2 ans que le spectacle dans cette forme-là est présenté. Donc Marilena m'avait approché pour concevoir toute l'ambiance sonore et la conception justement des diverses scènes et tout. Mais en plus, elle m'a demandé aussi de composer de la musique qui allait agrémenter puis justement comme
les effets sonores qu'on voyait.
Oui, exact. Oui. Fait que joue avec les sons. DJ Hémisphère G représente la facette créative de Maddy dans sa tête. Donc, toute la musique qu'il joue, ça serait potentiellement de la musique qu'elle écouterait. C'est pour ça que des fois, ben, sans spoilers, mais elle peut jouer sur son téléphone puis des choses qui peuvent se passer. C'est pas nécessairement moi qui le contrôle.
Trame sonore de sa vie d'ado.
Puis ça fait que, en tant que cette personne-là, ce personnage-là, je peux interagir également avec Rhizome, qui, elle aussi, fait partie du mental, du psychique de Maddy. Donc, il y a des moments où est-ce que les interactions peuvent être comiques, puis après ça, je repars, je fais ma musique, je tourne mes pages, OK, il y a un cue, OK, du tonnerre, faut jouer. Fait que, non, c'est vraiment le fun, c'est super complet aussi comme performance, puis non, c'est...
Okay. Ouais. C'est pour ton expérience. Et... c'était facile pour toi de jouer sur scène?
En tant que personnage?
Pour les personnages, mais parce que si je ne me trompe pas, c'est plus ta profession, c'est la musique et tout ça, non?
Oui, c'est ça, mais je pense qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste de scène également, je suis habitué de donner un spectacle. C'est sûr que là, on m'a sorti de ma zone de confort, mais toujours partant pour les défis, c'était okay. Quelque chose de vraiment drôle, puis sans dire les punchs, sans brûler les punchs, il y avait des moments ou des interactions que j'avais en tant que certains personnages qui m'ont beaucoup fait rire, puis que je pense que ça reste des highlights dans le spectateur va s'en rappeler de certaines scènes qui sont maintenant iconiques dans le show, là.
On se rappelle très bien de ça, mais on ne va pas brûler. Allez voir, on ne va rien brûler. Si vous voulez connaître, allez voir vendredi 17 février.
C'est parce qu'il fait des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est tellement drôle. Fait qu'il faut venir pour le voir.
Pour rigoler.
No spoilers.
Okay. Et pour revenir sur le show Aphrodisiaque, il traite majoritairement des cheveux et le rapport à l'identité chez les femmes, comme je disais, noires, brunes et métisses. Mais il ne traite pas de ce sujet exclusivement. Vous traitez également de l'importance de l'écoute, de la réduction à la couleur de peau, le racisme latent, la non-représentativité dans les médias.
Ouais.
Et vous effleurez un peu la violence policière envers les personnes de couleur.
Juste un peu, juste assez.
Juste vous l'effleurez. Est-ce que c'était important pour toi de traiter tous ces sujets-là ou est-ce que c'est venu naturellement en traitant de la question des cheveux
C'est que c'est des sujets qui, veut pas, vont découler du cheveu quand même. C'est des sujets qui sont toujours liés à une espèce de représentativité, comme par exemple... j'ai pas envie de dire des choses puis de brûler des punchs. Mais tu sais, par exemple, tu sais, l'exclusivité, tu sais, des produits pour les cheveux qui sont plus visés pour le cheveu raide, puis pas le cheveu bouclé, puis pas le cheveu crépus. Comme, justement, pendant la pandémie, on l'a vu, il y avait j'ai pas envie de dire la mauvaise chaîne de pharmacie, mais il y avait une chaîne de pharmacie qui avait fait scandale parce que, justement, les produits pour les cheveux afro étaient sous un lock, ils étaient cadenassés, tu pouvais pas en acheter. C'était pas considéré comme des produits essentiels et la pharmacie avait dit à justement sa clientèle noire, brune, métissée que ben elle pouvait juste aller acheter les produits Pantene, Herbal Essence si tu veux là, mais qu'ils n'avaient pas le droit d'acheter les produits pour justement les cheveux bouclés parce que c'était non essentiel. Fait que ça avait fait un petit froid. Oui. Ça avait fait un petit froid puis le problème a été réglé depuis, mais il y a toujours une espèce d'interdit, d'injustice qui est liée aux cheveux quand même, comme la fille qui, justement, travaillait au restaurant puis qui peut pas travailler, elle perd son gagne-pain à cause du cheveu, comme si le cheveu était plus grand que nature, représentait une embûche totale à la capacité à faire son travail, tu sais. C'est... Oh là là, ouais.
Et, et c'est pour ça, en fait, c'est des sujets qui sont liés.
C'est lié. Tu peux pas te débarrasser. Tu peux pas parler de l'un sans l'autre. Puis c'est sûr que c'est un gros morceau et je voulais pas que ça s'éparpille trop, mais c'était vraiment un défi là, dans l'écriture, là, dans la dramaturgie, de dosage, d'aller juste toucher quelques petites choses, juste assez, pour laisser ça planer pour une réflexion pour le public.
Oui, exactement.
Puis après ça, de continuer.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça venait comme effleurer ces sujets-là.
Juste
pour... Et...
Ding!
Après, et puis on revient à Maggie et les autres personnages.
Puis après ça, ça te met en tête que, OK, mais attends, il y a quelque chose qui vient de se passer, il y a quelque chose qui a été effleuré. Puis justement, comme dans une scène, ça va la marquer à vie. Puis elle va, ça va créer du trauma générationnel. Elle va s'en rappeler. Puis ça va revenir la hanter plus tard, tu sais.
C'est l'amalgame aussi de toutes ces petites scènes-là qui peuvent qui sont des scènes quotidiennes aussi, puis tu te rends compte que, oh mon Dieu, c'est back-to-back aussi, c'est toutes ces micro-agressions-là qui reviennent souvent. Fait que...
C'est une grosse accumulation. Ouais. Puis c'était ça aussi dans la pièce avec Lydie, dans notre exploration initiale, on se disait qu'avec toutes ces scènes-là, toutes ces micro-agressions-là, tout le trauma générationnel dans lequel la petite fille, elle se ramasse, ce qu'on voulait faire avec le rhizome, c'est que le rhizome, là, elle s'épuise, elle est fatiguée, mais de la même manière qu'on demande... On en demande tellement beaucoup aux femmes noires en soi qu'on est fatigué, mais on doit continuer, puis on doit toujours donner 3 fois, 5 fois plus que tout le monde. Fait qu'on est exhausted, on est éreinté à ce point-ci. Puis c'est ce qu'on voulait faire avec le cheveu, c'est qu'à ce point-ci, t'es brûlé, t'es plus là, t'es brûlé littéralement. Là. T'sais, c'est, qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée. Je peux plus fournir, t'sais, mais on en demande encore.
Oui. Et en parlant de... Juste pour revenir un peu, je ne sais pas si vous savez, ça c'est une petite information comme ça. En parlant des produits de lissage et de kératine, il y a une dernière étude qui a été faite que les femmes, qui sont généralement des femmes métisses noires ou brunes, et qui utilisent les produits de kératine et de lissage brésilien, ont plus de chances d'avoir... le cancer d'utérus à cause de ces produits-là.
Ah, mais ça, absolument.
C'est une étude américaine qui a été faite. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même assez dangereux. C'est quand même...
Oui.
Au-delà du fait de l'identité, mais aujourd'hui, il y a des études qui montrent que c'est vraiment très dangereux.
Puis ça a toujours été dangereux, mais c'est au point d'avoir été conditionné et déshumanisé, puis qu'on te coupe tout sens de... Tout sens de humain, en fait, au point où tu te dis, ben moi, je suis prête à souffrir les séquelles, justement, de me mettre cet acide-là sur la tête pour changer, pour m'alterner, pour ressembler à l'autre, pour justement rendre ma vie plus facile, t'sais, pour naviguer la vie avec plus d'aisance, je suis prête à aller jusque-là. C'est quand même intéressant, cette espèce de switch qui a été fait là, dans l'histoire pour te pousser jusqu'à cette limite-là. Puis c'est là où on sort les études, mais ça a toujours été le cas. Là. T'sais, je veux dire, ça peut te brûler... le cuir chevelu, tu sais, on parle de permanente, ça peut te brûler le cuir chevelu, tu peux faire de l'alopécie, après ça, les maladies de peau, les cancers, tu sais, c'est fou, là, quand même, d'aller jusqu'à ce point-ci.
À vouloir tellement changer pour s'adapter. Se faire mal.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas perçu de cette manière-là, c'est comme, t'as pas le choix,
en fait. C'est se faire imposer une conformité un peu pour, justement... aisé, puis faire en sorte que ce soit plus facile de naviguer.
Ouais.
Donc, encore là, l'exemple de la femme qui s'est fait refuser son travail. Conformée capillairement.
Ouais.
Parce que l'autre ne voit pas ça comme quelque chose de professionnel. Si dans ton imaginaire, ça n'existe pas, ben toi, tu vois ça comme de l'insubordination.
Ils prennent pas en considération le sacrifice de la santé puis physique.
Puis aussi monétaire. Hein? Ouais. C'est une business de millions, milliards de dollars. Là. C'est sûr que ça a baissé avec le temps, la permanente. Là, mais écoute, de devoir te lisser, te brûler les cheveux comme ça continuellement, pas parce que ça te tente nécessairement, mais par nécessité, c'est quelque chose.
Et c'est là aussi où rentre un peu le rôle de la représentativité dans les médias.
Oui.
C'est très important pour éviter tout ça, en fait.
Absolument.
Surtout dès le jeune âge.
Écoute, je sais où on s'en va. T'étais là mercredi.
The cutest moment.
Mais oui, le moment le plus cute. Mais tu sais, c'est ça. Parce que là, la gang, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est parce que pendant le spectacle, il y avait une femme, une maman qui est venue avec sa fille. C'est un spectacle grand public, mais tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, c'est quoi, 12, 13 ans? Tu sais, c'est le plus jeune, là, t'sais, que tu sais. Mais elle est venue avec sa fille de 4 ans. De 4 ans. Je n'ai jamais entendu cet enfant-là de tout le spectacle. Super calme, super sweet. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fait de fosse, là, tu sais. Puis, venue me voir à la fin, là. Ah! Me donne un câlin, là. Le théâtre qui s'arrête, qui freeze, là, tu sais. Vous l'entendez, là? Oh, mais oui, la petite fille était cute.
C'est trop mignon.
T'allais prendre des photos sur le trône, elle me dit des secrets, là. Tu sais, ça commence, là.
Elle a dit qu'elle était fière de ses cheveux.
Oui.
Oui.
Ça, c'était fou.
Oui. Elle a dit, tu sais, moi, j'ai pas eu ça. Fait que moi, je suis. Ah, j'en reviendrai jamais. J'en reviendrai jamais.
Et, hey. Et c'est l'un des points forts de ce spectacle
ouais.
que tu mets en scène. Et on espère le voir beaucoup plus, ce spectacle-là, en fait.
Mais nous aussi.
On espère.
Alors, comme on disait, Aphrodisiaque est un spectacle instructif et interactif également.
Oui, interactif. Le ouais.
public est...
yes. Yes, it is.
N'est-ce pas, Alexis? on va rien dire. Allez voir vendredi. Alors, le public est aussi diversifié en termes d'âge, tu disais, ouais. et même en termes d'origine, de personnes. Mm-hmm. Toute personne qui assiste peut s'identifier à un personnage, une situation, une réflexion. Oui. Moi, par exemple, la seule personne avec le nom qui finit par un A et qui n'a pas les cheveux lisses. moi, il y a une scène qui m'a vraiment, à laquelle je me suis vraiment identifiée, mm-hmm. c'est... le sentiment de nudité qu'avait ressenti Maddy quand on lui a enlevé la capuche. Et moi, I can relate to this. J'ai déjà vécu, moi, cette situation. Et, et c'est très important. En fait, c'est ce message-là, le fait de pouvoir s'identifier à cette pièce, au message de cette pièce, aux situations, c'est, je pense que c'est un atout et c'est très important pour le spectateur aussi.
Oui. Vraiment, vraiment. Oui. Et puis, ce qui est drôle, c'est que tout le monde, tu sais, je reçois des messages, des... Tout le monde a une scène préférée, mais c'est jamais la même. Mais c'est ça qui est le fun. L'éventail est tellement large. En entièreté, tout le monde aime le show, mais tout le monde a une scène qui vient les toucher différemment.
Exactement.
Ah, mon Dieu, c'est le fun que tu parles de ça. Ouais.
Alors, Aphrodisiaque est un solo spectacle qui combine chant, effets sonores, jeu de lumière. Il est mis en scène par Lydie Dubuisson. Mm-hmm. Qui, comme toi d'ailleurs, Marilyn, est associée artistique au Black Theatre Workshop.
Ouais.
Tu l'as bien dit,
t'inquiète, c'était parfait. <Okay. rire>
vous partagez la scène avec, comme je disais, Alexis, a.k.a. Don Paco, Master of Ice.
Of Keys.
Of Keys.
Yes.
Tu l'as bien dit, écoute, ça va bien.
Ok, l'éclairage est de d'Aramia et les magnifiques costumes sont de Sandrine Sparagna et Georges Michael Fanfan. Vous allez dire, ça, j'ai bien dit ça aussi.
Ah, écoute, tu l'as bien dit, Sandrina Sparagna, George Michael Fanfan. Ben oui, on l'a, on a compris, okay. on a compris.
Alors, comme vous avez dit sur scène que vous allez sortir les EP des différentes musiques qui ont été jouées tout au long du spectacle, si vous pouvez nous en parler.
Vas-y, mon cher Paco, parle-nous de la musique.
Oui. Bon. Ben, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'entrevue, Marilyn a me demandé de composer différentes trames musicales pour justement illustrer des tableaux. Y a un thème principal qui revient sous différentes formes à travers toute la pièce quand on se retrouve dans un lieu plus spécifique. Je me suis amusé à vraiment élaborer puis faire des liens aussi avec les différentes scènes. Le EP va essayer d'être représentatif quand même de la trame narrative. Donc, ça ne sera pas seulement les musiques, mais on va aussi avoir Marilyn qui va faire du spoken words aussi, qu'on va aller tirer des extraits de la pièce également pour avoir sa magnifique voix sur les trames musicales. je vise une sortie pour avril, puis ça me fera plaisir de les envoyer à Choc.
Ok, oui, merci beaucoup. Et on a hâte de les écouter parce que l'effet sonore et toute la musique, elle occupe une place importante dans toute la pièce.
C'est vraiment important. Mais tu sais, ça fait toute la différence. Là. Je voulais tellement trouver un concepteur de son qui pouvait produire de la musique et pas aller chercher des extraits, des samples, parce que je trouve que ça fait la différence de créer de zéro.
Exactement. Une âme propre
plutôt qu'essayer
à la pièce.
De patcher des choses ensemble, c'est pas pareil. Tu sais.
Oui.
Ouais.
Et ça se ressent aussi sur scène. Mm-hmm. Ça accompagne l'ensemble des scènes selon les différentes émotions vécues, selon les différentes étapes.
C'est un gros trip, hein, ce show-là. Oui. De la même manière aussi, les costumes, là, puis le set, c'est comme... OK, on parle de zéro. Mm-hmm. Puis là, c'est quoi que j'ai dit à mes concepteurs? C'est une saga galactique. Ouais, ça, c'est ce que tu travailles avec moi. C'est ça que tu t'obtiens. Purple Rain, saga galactique. Vas-y.
C'est à peu près ça, les seules notes qu'on avait. Puis je suis comme, ah, ben pour vrai, c'est dans mon alleyway.
Okay. Et comme tu disais, il y avait les trônes, les costumes et tout ça. C'était vraiment incroyable. Oui. Comme on parlait tout à l'heure, il y avait un costume comme de base. Avec lequel tu pouvais jouer et après ça rajoutait des costumes selon les scènes.
Ouais, des petites épaisseurs.
Oui. Et donc ça apporte encore une âme générale avec la musique.
Ah, on y a pensé, on n'est pas fous, nous autres.
Sur un plan plus personnel, mm-hmm. Marilyn, avec Aphrodisiac, tu as remporté en 2022 le prix du spectacle de l'année au Festival ZooFest.
Shout out Isabelle.
Et en cette même année, tu remportes le prix Gloria Michel Aleong. Allez. Qu'est-ce que ces prix représentent pour toi, en fait?
Ah là là, ben je te dirais, c'est la reconnaissance de mes pères, surtout avec le prix Gloria Mitchell Elong, qui a été donné par le Black Theatre Workshop. C'est pour l'implication communautaire, pour l'excellence artistique. Mmh. Fait que c'est sûr que ça m'a touchée de le recevoir de leur part. Puis aussi que eux maintenant, me supportent tellement dans chacune des étapes de ce spectacle-là. Fait que c'est sûr que c'est super inspirant. Même chose avec le prix du public au ZooFest. C'était un public différent, mais qui a vraiment embarqué dans le spectacle. Puis ce que j'aime en ce moment, c'est que ce show-là va rejoindre des groupes de personnes qui ne vont pas au théâtre d'habitude. Et là, on amène une espèce de vent de fraîcheur de gens qui veulent vraiment venir au théâtre puis qui se sentent représentés et qui se voient. Puis ça, c'est vraiment touchant. Puis ça nous force dans le collectif à continuer. Puis tu sais, on a déjà un autre texte en travail, d'autres trucs, mais c'est juste vraiment le touchant puis inspirant de voir que les gens sont vraiment à l'écoute puis qui nous supportent là-dedans. Là. C'est incroyable.
Okay. Et en parlant des travaux qui viennent, est-ce que le fait et ce rapport à l'identité constitue comme une trame directrice à toutes tes créations ou est-ce que... Si tu pouvais nous donner des...
Oh là là! Oui, tu sais, ça reste toujours... T'sais, sur le plancher, là, t'sais, en bas, là, t'sais, comme un petit tapis qui est là. Là t'sais. Oui. Parce que t'sais, comme le collectif théâtral Potomitan, déjà Potomitan, c'est un terme qu'on utilise dans plusieurs communautés antillaises, là, mais t'sais, plutôt haïtienne pour définir la femme comme pilier, celle qui tient tout, celle qui est au centre de la famille. Puis c'est un peu l'idée du collectif, là, c'est vraiment la femme au centre du processus créatif et les alliés, et les personnes qui s'identifient, puis tout ça, t'sais. Donc du coup, c'est sûr que moi, je veux créer une trace écrite en tant que dramaturge pour les communautés afro-descendantes francophones. Parce que déjà, moi, j'ai étudié à Concordia à l'époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de textes étudiés par des femmes afro. Il n'y en avait pas, là. Les institutions théâtrales au Québec, il n'y en a pas. Puis moi, ça m'intéressait. Puis j'en ai découvert des autrices là, du côté anglo, canadiennes surtout. Puis il y en a des américaines, mais il y en avait ici, mais il n'y en a pas une trace écrite francophone, afro-descendante. Okay. Et alors, c'est vraiment important pour moi de travailler ça, puis de vraiment laisser une trace écrite avec des livres, puis des manuscrits. Puis...
Des spectacles.
Ouais, des spectacles aussi, des petits spectacles. Pour que ce soit disponible, vraiment. Okay. Là, pour que la prochaine génération soit comme « Hey, il y a des choses à lire, super! » Tu sais, voilà.
OK, c'est très intéressant.
C'est beaucoup, hein?
Ouais. Alors, notez bien, donc Marilyn Chéri et Alexis seront sur scène pour jouer Aphrodisiac ce vendredi 17 février à 19h30 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Soyez nombreux. Et,
Mais le truc, je veux juste le dire, là, à l'heure actuelle, oui. Ben c'est complet, c'est sold out. Mais si vous contactez Montréal-Nord, il est possible que des places se libèrent. Alors, il faut appeler, il faut envoyer un petit courriel, tu comprends?
Ouais.
Voilà, pour se mettre sur la liste d'attente, ou peut-être tu as de la chance, et puis quand tu appelles, oh, un billet s'est libéré, et puis boum, je vais au spectacle. C'est comme, on ne sait pas.
Oui, donc soyez rapides. Vous êtes déjà nombreux et... soyez à temps également pour voir tout le spectacle. Oui. Et comme tu disais, encourageons les arts vivants.
Encourageons les arts vivants. Oui. C'est tellement important. T'sais, je sais que souvent, on porte seulement attention au gros théâtre institutionnel, puis ça nous attire, mais il y a vraiment des bijoux, des trucs qui se passent là, dans les maisons de la culture aussi. Là. T'sais, moi, la Maison de la culture m'a permis d'aller voir, par exemple, la pièce « Comment je suis devenue musulman » là, gratuitement, justement à la Maison de la culture de Montréal-Nord. Puis, c'était juste un hasard, mais c'est juste... Il y a de l'accessibilité, puis je trouve ça beau ce que les maisons de la culture font pour justement permettre au grand public d'aller voir des spectacles qu'ils n'auraient pas la chance d'aller voir, justement, parce que des fois, les théâtres sont vraiment localisés au centre-ville. C'est pas accessible, mais aller voir ce qui se passe dans les maisons de la culture. Ouais. Concerts, théâtre, toute la patente, là. Il y a vraiment des belles choses.
Bon, ben, merci beaucoup. Merci Marie-Lyne.
Merci à toi, Alexis,
pour cet échange. Et allez voir Aphrodisiac, c'est vraiment une expérience complète.
Merci.
Suivez le collectif Potomitan sur tous les réseaux.
Oui, ça serait le fun. Merci, ça serait bien le fun.
OK. Ouais. Merci.
Bye.